Le livre des juges, Juges chapitre 2, et c'est vrai que la dernière fois, je n'avais pas eu l'occasion de vraiment finir l'étude que j'avais préparée, et il me restait encore juste deux petits points à terminer. Mais nous étions en train de regarder donc à ce deuxième chapitre hein, du livre des juges, où on voit encore une fois ce déclin spirituel hein, dans le peuple d'Israël, et de voir que l'Éternel, eh bien, a dû déjà les reprendre, mais à un moment donné aussi, eh bien, de manifester sa juste colère envers ce peuple rebelle. Et encore une fois, je rappelle que cette partie-là du livre des Juges, c'est comme un prologue, hein, des choses à venir, de ce qu'on va lire par la suite dans le livre des Juges, parce qu'on a vu ce cycle, cette spirale, hein, descendante, ce déclin spirituel dans le peuple d'Israël, dans cette période de leur histoire. Et ensuite, on a vu quand même bon, la touchante miséricorde de Dieu, parce que malgré cela, malgré le fait que ben, il a été amené à les châtier, à les punir, et que il voit son peuple, à un moment donné, quand même, eh bien, quelque part, regretter, quelque part se repentir, il pleure, il se lamente à l'Éternel, et l'Éternel n'est pas un Dieu sourd, hein, ni aveugle, et dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde, voilà, Dieu suscita des juges. Ces juges, c'était des personnes qui avaient été choisies par Dieu pour vraiment libérer le peuple et aussi enseigner le peuple, d'accord? Et donc, on voit encore une fois, hein, à travers ce livre des juges, ce même scénario à chaque fois où, comme on l'a vu, cette période de prospérité, ensuite déclin spirituel, le châtiment, et ensuite les lamentations, les regrets, la repentance, l'Éternel qui montre sa compassion, il envoie les juges viennent libérer des oppresseurs, mais ensuite, et c'est ce que l'on va voir ici ce soir, c'est que malgré cela, malgré la grâce de Dieu de les libérer de cette oppression, malgré cette grâce d'avoir quelqu'un qui est là pour donner une direction spirituelle à ce peuple, eh bien, on a un peuple qui continue quand même de se rebeller. Et donc là, on voit vraiment l'étonnante patience de Dieu pour son peuple. Et j'en avais déjà un peu touché la semaine dernière, cette patience, elle est encore là. Hein, le dimanche matin, on est dans le livre de deuxième épître de Pierre, et dans cet épître, justement, Pierre, il nous parle de la patience de Dieu envers ce monde, un monde qui est pécheur, un monde qui est rebelle, et Dieu montre sa patience. Dieu montre sa patience parce que son désir, sa volonté, c'est que tous les êtres humains se repentent et puissent avoir cette vie éternelle dans sa présence. Mais donc là, dans ce chapitre 2 du livre des juges, voilà, on a cette explication de cette période où, malgré l'intervention de Dieu à travers ses juges, eh bien, très rapidement, Israël se détourne de l'obéissance que ses pères avaient suivie. Hein, et apparemment, même du vivant des différents juges, le peuple commençait déjà à s'éloigner de Dieu et à reprendre le chemin de la désobéissance. Et alors, quand je parle de désobéissance, je rappelle encore une fois, c'était pas juste ce que nous, en tant qu'êtres humains, on pourrait considérer comme une simple ou une petite désobéissance. On parle ici d'infidélité spirituelle. On parle d'idolâtrie. On parle même de prostitution dans le domaine spirituel, parce qu'ils sont allés vers d'autres dieux, mais également sur le plan physique, on a vu que beaucoup des religions païennes les entourant pratiquaient une prostitution, on va dire, religieuse, où des prêtres, des prêtresses étaient dévoués à ce genre d'activité, et que le peuple d'Israël pratiquait lui-même ce genre d'activité, sans parler, bon, de tous les autres atrocités qui étaient commises dans ces religions païennes. Donc, on parle vraiment, non seulement d'infidélité, mais un degré encore plus au-delà de cela, de cette prostitution spirituelle. Et donc, malgré cela, malgré cette rébellion et le châtiment, bien, Dieu montre quand même de la compassion, de la miséricorde, mais quand il envoie un juge, regardez bien quand on va relire ce verset 17, mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges. car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Donc Israël n'a pas écouté les serviteurs de l'Éternel, n'a pas écouté ses juges, et donc reprend le même chemin à chaque fois hein, dans cette période des juges, et à chaque instance de désobéissance, d'infidélité, ainsi c'est décrit, c'est toujours plus prononcé, c'est toujours plus profond dans les pratiques pécheresses. Et on ne peut pas, nous aujourd'hui, ne pas regarder à notre monde actuel, à notre société actuelle, et ne pas voir une telle déviation hein, dans la société, dans les mœurs, où on voit que de plus en plus, les gens eh bien, sont égoïstes, plus en plus les gens sont rebelles, de plus en plus les gens n'ont aucune honte à parler de manière vulgaire, aucune honte à être malhonnête, aucune honte dans leur pratique, quelle que soit hein, leur pratique dans le domaine de la sexualité. On est dans une période assez similaire à cela par rapport au fait qu'on est dans ce déclin. Un déclin qui, à chaque fois, hein, on voit que ça s'aggrave et que ça s'enfonce toujours plus dans le péché. Et donc, à juste titre, hein, l'Éternel va accuser ce peuple d'Israël d'infidélité, de cette prostitution, d'adultère, hein, de tromper Dieu. Mais voilà, ce terme de prostitution, c'est quand même marquant. C'est quand même un terme qui est fort. Hein. Et le fait que Israël rejette ainsi l'Éternel en allant vers d'autres dieux, c'était quelque chose de très grave. Mais accompagné de cela, il y avait ces mœurs débridées. Et on comprend que, bon, la volonté de Dieu hein, dans le domaine de la vie de couple, de la sexualité, c'est une union. C'est une union qui doit être pure à l'image de Dieu. C'est une union qui doit être selon l'ordre que Dieu a établi, une union hein, entre un homme et une femme. Mais quand on pense à ce que le Seigneur lui-même disait par rapport à l'adultère, hein, je sais que souvent on prend le péché comme l'acte qui a été commis. Mais ce qu'on voit Christ faire dans le Nouveau Testament, c'est d'aller plus loin. Parce que ce n'est pas juste l'acte qui a été commis, c'est qu'est-ce qui a amené à pousser à cet acte-là. Et dans ce domaine-là, hein, dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 5, verset 28, le Seigneur il dit, quiconque regarde une femme avec convoitise, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire qu'il y a déjà la pensée du péché qui est là, qui est ancrée dans le cœur et qui va amener une personne probablement à le faire. Mais même s'il y a une personne qui décide de ne pas le faire, dans ses pensées, a déjà commis l'adultère. Et comme on l'avait vu déjà, ce culte qui était voué aux divinités cananéennes, hein, de la fertilité, impliquait une sexualité débridée, impliquer la prostitution et donc l'adultère, à la fois sur le plan spirituel, mais également sur le plan physique. Et donc ça nous montre encore une fois à quel point eh bien ce peuple s'était vraiment égaré, éloigné de Dieu. Et donc oui, dans ce sens-là, quand on pense à Israël dans sa relation avec Dieu et le plan que Dieu avait pour Israël d'être comme dans cette relation de couple, hein, du mari et d'une femme, d'un fiancé, d'une fiancée. Et on retrouve cette image également dans le Nouveau Testament par rapport à l'Église. Hein, on a plusieurs passages qui nous parlent que l'Église, elle est l'épouse du Seigneur, la fiancée du Seigneur, etc. Et ça, c'est l'image de la relation que Dieu il veut avoir. C'est une relation proche, intime, avec son peuple, avec ses enfants, mais qui implique ben, la fidélité. Tout comme n'importe quelle relation de couple, ça devrait être logique et ça devrait être la base, le fondement de la relation, c'est on veut être fidèle l'un à l'autre, mon amour, je te le voue à toi et à personne d'autre. Et c'est ça que Dieu y voulait. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que Dieu y fait pour son peuple. Et donc oui, ici, Israël avait perdu cette pureté d'épouse sur le plan spirituel et physique, et donc tout était corrompu. Et quelle patience! Quelle patience! Hein, comme je l'avais déjà souligné la dernière fois, hein, l'être humain, lui, il est beaucoup plus prompt et virulent, hein, dans ce genre de situation-là, à tout de suite accuser et condamner, hein, la partie adverse qui a commis, hein, l'adultère, et de dire c'est fini. Hein, et puis de prendre ça y est, c'est bon, hein, je te fais plus confiance, je ne peux plus être fidèle à toi parce que tu m'as été infidèle. Ça, c'est le cœur humain. Mais le cœur de Dieu, lui, c'est un cœur qui est pur, qui est saint. Et Dieu est amour. Et donc, malgré même notre péché, malgré notre infidélité, Dieu, lui, demeure fidèle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puis ensuite, au verset 18 de ce livre des Juges, nous voyons, après cette miséricorde et cette patience de Dieu, on voit vraiment là la miséricorde de Dieu, hein, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Malgré cette désobéissance, l'Éternel, oui, comme on l'a vu, suscitait des juges pour les délivrer. Et pendant cette période de temps, comme on le voit, l'Éternel était avec les juges. C'est-à-dire que la force, la puissance, derrière ces personnes qui libéraient le peuple de l'oppression, c'était l'Éternel. Et donc à chaque fois, l'ennemi ne pouvait pas l'emporter pendant cette période où les juges, eh bien, étaient en office, si vous voulez. Et que Dieu accordait donc par le biais de ses juges, eh bien, de nouveau ses bénédictions, de nouveau ce repos, hein, cette idée de restaurer à ce que ça devrait être. Et ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que il veut restaurer cette relation brisée par le péché. Il veut restaurer cette relation avec l'être humain. Et la base de cela, c'est sa grâce. Alors pourquoi, on pourrait se poser la question pendant toute cette période, hein, du livre des juges, pourquoi le Seigneur continuait-il à montrer cette bonté à un peuple inconstant, infidèle, rebelle, etc. Pourquoi est-ce qu'il était ému de pitié par leurs gémissements? On en revient à qui Dieu est, dans son essence, on va dire, la plus simple possible. S'il y a quatre choses qu'on sait au sujet de Dieu, hein, qui sont les quatre choses les plus importantes à retenir, c'est que Dieu est saint et il ne peut pas tolérer le péché. Il ne peut pas. Le péché, c'est tout l'opposé de la sainteté, de la pureté, de la perfection. C'est à l'opposé de cela. Dieu, il est juste. Et parce qu'il est juste, il ne peut pas laisser ce genre d'agissement que commettre le péché. Il ne peut pas laisser ça impuni. Il ne peut pas. Hein, ce qu'on attend d'un juge, c'est qu'il soit en effet non seulement juste, équitable, mais qu'il suive la loi à la lettre. Hein, si on avait des juges qui disaient, bon, je sais que la loi dit ça, mais pff, allez, c'est bon, tu peux partir. Est-ce que ce serait de la justice? Non. Mais Dieu est juste et il ne peut pas laisser le péché impuni. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il ne veut pas non plus nous laisser dans cet état-là. De la même manière qu'ici, il entend les gémissements de son peuple et il est ému de pitié. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Il aime de la manière la plus pure et la plus parfaite. Il aime l'être humain malgré sa rébellion, malgré son infidélité. La Bible nous dit que la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde, oui, c'est pour ôter le péché. Oui, c'est pour offrir sa vie sur la croix et ressusciter des morts pour que nous puissions avoir en lui, eh bien, la victoire sur le péché, mais bien plus encore d'avoir cette condamnation qui est enlevée, retirée de nous, parce que c'est plus ma justice, c'est celle de Christ qui est appliquée. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire hein, dans la parole de Dieu et dans le message de l'Évangile. C'est que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Imaginez donc cela. Dieu est saint, il ne tolère pas le péché. Dieu est juste, il ne laisse pas le péché impuni. Mais Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, bien ce juste juge, il décide que, écoute, si tu te repens, tu es gracié, tu es pardonné. Et ça, c'est ce que nous voyons. Hein, ce Dieu de l'Ancien Testament, et j'aime pas utiliser ces termes, Dieu de l'Ancien Testament et Dieu du Nouveau Testament, parce que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. On retrouve toujours les mêmes choses, sa sainteté, sa justice, son amour et sa grâce. Et donc Dieu est fidèle à lui-même. Et même si son peuple était indigne et ne méritait rien, le Seigneur, lui, avait compassion de son peuple, même pendant les jours les plus sombres de l'histoire de son peuple, Dieu était là. Il envoya les juges. Et pourtant, malgré cela, malgré la libération, eh bien, il n'écoutait pas. Une fois libéré, c'était, ben, on recommence. C'est les choses que l'on voit, même dans notre propre système judiciaire, n'est-ce pas? On a ce terme de récidiviste. C'est-à-dire que même des personnes qui auraient dû prendre une peine plus large, plus grande, hein, en termes de temps ou de pénalité financière, le juge, ah, il a peut-être un peu compassion, il comprend un peu l'histoire qui a poussé cette personne à agir ainsi, etc. Et il va être clément et pas mettre la pleine pénalité pour le délit ou le crime commis. Mais voilà, la personne sort de là et elle retombe, elle récidive. Qu'est-ce qui se passe après? Elle va repasser devant le juge et le juge, voilà. Ah ben, voilà, j'avais fait ça pour toi. Et qu'est-ce que tu en as fait? Tu es retombé encore une fois dans le crime. Alors beaucoup de juges à ce moment-là, ils seraient en colère, n'est-ce pas? Et là, ils ne montreraient plus de clémence envers une telle personne. Mais Dieu, pendant toute cette période des juges, oui, il ne va pas laisser le péché impuni, mais il va toujours avoir compassion, et il va toujours avoir grâce, et il va envoyer quelqu'un pour libérer le peuple. Mais c'est terrible de voir néanmoins ce peuple, eh bien, persévérer dans la même conduite, dans le même endurcissement, hein, par rapport à leur péché, par rapport à leur rébellion envers Dieu. Mais voilà. J'aime beaucoup cette expression du roi Salomon, hein, l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. C'est-à-dire que l'être humain pécheur, quelque part, lui aussi, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Tant qu'il ne saisit pas et ne comprend pas pleinement la grâce de Dieu envers lui. Cette correction et la miséricorde, la grâce de Dieu à travers cette période n'apporta qu'une solution temporaire pour Israël. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi ce livre des juges, parce que quelque part, c'est une annonce des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, on a souvent ça. On a souvent des passages qui vont être regardés comme des préfigurations, hein, une annonce, si vous voulez, de ce que Dieu va accomplir de bien meilleur pour l'être humain. Et cette période des juges, elle est là pour ça aussi, pour nous montrer que on a besoin d'une solution bien meilleure pour nous sortir de cette situation du péché. Parce que la récidive, elle est trop facile. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament, notamment dans l'Épître aux Hébreux, nous parle de Christ. Nous parle de Christ qui est Dieu, qui est Seigneur et qui est Sauveur, Et c'est ce qu'il a accompli pour l'humanité. C'est ce qu'il veut être pour l'humanité. Sauver l'humanité du péché, sauver l'humanité de la condamnation du péché, restaurer ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. Et l'Épître aux Hébreux nous parle de ce que Christ a accompli, son sacrifice sur la croix, comme étant parfait, comme étant meilleur. Ce que Christ a fait pour nous, c'est bien plus que d'avoir été un juge qui libérait. La libération que le Christ apporte, c'est une libération qui est éternelle. Pourquoi? Parce qu'on parle du péché, on parle de la condamnation éternelle du péché, on parle de cela. Et cela, l'Écriture est claire là-dessus, c'est que ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils voient en Jésus-Christ qu'il est Dieu, qu'il est le Seigneur, qu'il est Sauveur, qui ont reconnu, je suis pécheur et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Eh bien, la parole nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucune. Est-ce qu'on mérite ça? Non. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, c'est sa grâce pour nous. J'aurais pu essayer d'accomplir tout plein de choses dans ma vie pour essayer de mériter que Dieu me dise, c'est bon, tu peux venir au ciel. Ça ne sert à rien. Parce que là encore, l'Écriture nous dit que ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. On ne peut pas faire autrement que cela. Si on base tout sur nos œuvres, on n'y arriverait pas. Parce qu'à un moment donné, ben, on récidive, n'est-ce pas? On retombe. Mais la grâce accordée en Jésus-Christ, c'est une grâce qui n'a pas de fin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est Dieu, lui qui est éternel, c'est lui qui a accompli ce sacrifice pour nous. Mais ici, dans cette période des juges, oui, une fois qu'un juge pieux mourait, ben, le peuple d'Israël reprenait ses habitudes idolâtres et il agissait de manière toujours plus corrompue. Et à chaque génération, ça semblait s'empirer et le péché s'enracinait. Et le peuple refusait d'abandonner ses pratiques, d'abandonner ses habitudes obstinées. Et c'est pas pour rien que souvent, Dieu va parler de ce peuple comme un peuple au cou raide, entêté, têtu dans son péché. Il semblerait donc que si le juge pouvait contrôler les manifestations extérieures de l'idolâtrie, il ne pouvait pas effacer la tendance à ce mal dans la vie de son peuple. Pourquoi? Parce qu'on en revient à ce que l'Écriture dit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont pervertis, tous sont corrompus. C'est-à-dire que même si pour la meilleure situation je dis en meilleur entre guillemets, qu'on pourrait avoir même dans notre société, à savoir qu'on vivrait dans une société où on aurait réussi à contenir hein, le mal dans notre société, contrôler et contenir hein, ceux qui agissent avec méchanceté envers les autres. Même dans cette situation-là, même si on avait des lois qui seraient mises en place et qui seraient vraiment suivies, hein, ces lois, parce qu'on a beaucoup de lois qui sont en place quand même dans notre pays, malheureusement, c'est pas tout le temps suivi. Ça n'empêcherait pas que dans le cœur de l'homme, il y a ce qu'il y a. Un cœur pécheur. C'est-à-dire que même si nous, dans notre société, on parvenait, et je dis ça parce que je sais que on a beaucoup de gens qui vont accuser les chrétiens de vouloir prendre le contrôle des pays et machin, etc. Ce n'est pas notre objectif. L'objectif que Christ a pour son Église et pour les chrétiens, c'est surtout d'annoncer l'Évangile et d'en amener le plus possible vers lui. On n'a aucun agenda de vouloir contrôler un pays ou quoi que ce soit comme ça. D'accord? Parce qu'on sait très bien que même avec des lois qui viendraient de notre part, le cœur humain, lui, ne change pas. Il reste le même. Et on a vu à travers l'histoire des pays qui ont eu une influence chrétienne dans leur morale et dans leur culture, etc., et qui ont mis des lois en place, et on a vu ces mêmes pays décliner rapidement. Et même avec les lois mises en place, ça n'a pas changé le cœur de l'homme. Alors oui, on a dans ce livre des juges, comme je l'avais déjà, j'en avais déjà parlé la dernière fois, on a ces deux vérités contrastées hein, qui sont mises en évidence dans ce livre des juges. Le caractère tortueux du cœur humain L'ingratitude, l'obstination dans le péché, la rébellion, la folie. Parce que c'est ce que c'est. Je veux dire, quand on a même, et surtout pour ce peuple d'Israël, connaissance de qui est l'Éternel, hein, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde, quand on a conscience de qui il est et de vouloir continuer dans l'idolâtrie et dans la rébellion envers lui, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais de l'autre côté, voilà, nous avons la longanimité, la patience, l'amour, la miséricorde de Dieu. Donc oui, on a ces deux vérités opposées, hein, cet échec total d'Israël qui illustre bien notre incompétence en tant qu'être humain à rester juste par nous-mêmes, à rester pur par nous-mêmes. On a besoin de l'intervention de Dieu dans notre vie, comme Israël a eu besoin de l'intervention de Dieu par le biais des juges. Mais voilà, on a face à cet échec une grâce qui est présente, constante. Mais il faut être bien conscient d'une chose. C'est que là où la Bible nous parle de cette grâce et de cet amour de Dieu, il viendra un temps où ça va, je vais pas dire que l'amour de Dieu va s'arrêter, non. Mais il y a un jour où Dieu, il amènera toutes choses en jugement. Et là, il sera trop tard. Et j'aime beaucoup l'image aussi que le Nouveau Testament hein, parle du retour de Christ et du jugement de Dieu sur l'humanité. C'était comme au temps de l'époque de Noé. Tout le monde s'amusait, tout le monde riait, tout le monde s'enfonçait toujours plus dans le péché. Hein, le livre de la Genèse nous dit même, hein, au chapitre 6, que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour vers le mal. C'était quelque chose de constant. Il y avait, je pense même pas qu'il y avait une seule pensée pure à l'esprit des gens. Et ça, c'est la description que Dieu donnait de la population mondiale à l'époque de Noé. Et l'image de la grâce de Dieu envers un homme, sa famille, et de les sauver, de les extirper de cela, c'est la même chose que l'on verra. Un jour, Dieu, il enverra son jugement. Mais est-ce que nous, on sera dans cette arche? Ça, c'est la question pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons la réponse parce que nous avons compris qui est Christ et ce qu'il a accompli pour nous. Est-ce qu'il y a des...